Merci Madame Kroll, Monsieur le Directeur Général Michel Venn, mes amis. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Surtout, je vous félicite de votre travail aujourd'hui sur cette question qui nous concerne tous, qui est tellement importante pour l'avenir de notre société. Et je dois dire que c'est pour moi toujours un très grand plaisir d'être dans ce pays où j'ai des racines profondes et tant de relations sympathiques. Madame Desjardins, si je vous ai compris bien, vous vous occupez pendant des années de la question du transport entre les États-Unis et le Canada. Donc, je dois commencer avec une petite histoire qui remonte jusqu'à l'année 1963. Quand mon père est revenu de l'ambassade aux Indes, et il ne s'occupait pas sur grand-chose pendant quelques instants. Il y avait une rencontre à l'époque, une rencontre officielle, entre le Premier ministre du Canada, M. Pearson, et le président des États-Unis, John F. Kennedy. Et il fallait discuter d'une question très importante qui concernait les transports entre les deux pays, c'est-à-dire la révolution technologique dans l'aviation, qui changeait tous les rapports qui existaient auparavant. Et ils ont décidé de constituer une commission bilatérale pour examiner la question comment régler les transports aériens entre les deux pays. Le président Kennedy a dit au Premier ministre, M. Pearson, qu'il avait un candidat pour le côté américain de cette commission, et c'était son ancien ambassadeur aux Indes, John Kenneth Galbraith. Et le Premier ministre, M. Pearson, a dit oui. Mais il est canadien, lui. C'est une excellente idée et je le nomme comme représentant du Canada à cette commission. Donc, c'était pour la première fois, et je crois que la seule fois, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a eu une commission bilatérale qui consistait d'une seule personne. On est très fiers dans la famille. On est ici pour discuter les inégalités. Et surtout, vous avez discuté aujourd'hui les inégalités sociales. Je vais restituer les inégalités sociales entre deux autres genres d'inégalités, c'est-à-dire les inégalités juridiques et les inégalités économiques. Pour commencer avec les inégalités juridiques, c'est-à-dire la division de la société entre les classes, entre les États. C'est un système qui fait partie d'une époque disparue pour la plupart, mais pas tellement lointaine. C'est que il n'y a qu'un siècle et demi que nous avions de l'esclavage aux États-Unis. Il n'y a que deux siècles qu'on avait des monarchies et des aristocraties juridiques dans la plupart des pays du monde. Et c'est un système dont les traces persistent dans certains coins du monde jusqu'à aujourd'hui. Et même si on examine nos propres sociétés, on trouve toujours les traces des divisions et des inégalités juridiques, surtout entre les citoyens et les immigrés. On dit que dans nos sociétés, tout le monde a des droits civiques et des droits politiques, mais effectivement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Passons aux inégalités économiques. Celles-là ne vont jamais disparaître. Elles sont effectivement à la fondation de la société humaine et certainement de la société capitaliste. Tout le monde reconnaît que c'est le cas et je crois que personne ne veut éradiquer totalement les inégalités économiques, ne veut vivre dans une société absolument égalitaire. On a fait quelques efforts à construire des telles sociétés, ça a toujours terminé en catastrophe. Karl Marx, fameusement, a décrit la division entre bourgeois et prolétaires, seigneurs et servants, maîtres et apprentis, en déclarant que l'histoire de toute société humaine est l'histoire des conflits de classe. Mais ce n'est pas seulement que ce soit inévitable, mais aussi, dans la vie de la plupart des économistes, certainement, que ce soit nécessaire. Même si on prend un économiste avec une réputation progressiste, tel que John Maynard Keynes, au début de sa carrière, il défendait que les inégalités des revenus étaient à la base du progrès au 19e siècle, autant que la classe capitaliste se chargeait de l'épargne et de l'investissement. Et ne gaspillait pas ses privilèges dans la consommation. Dans la poursuite de la croissance, d'après laquelle tout le monde bénéficie. Un économiste autrichien, réactionnaire, mais de génie, Joseph Schumpeter, installé après les années 30 aux États-Unis, insistait aussi sur la nécessité des grands prix dans la loterie de l'innovation pour motiver, pour incentiviser la concurrence surtout technologique. Il avait raison. Il avait raison dans ça. Donc, quel est le problème? Je propose que la déprivation extrême, c'est-à-dire la pauvreté, reste un problème, mais plus ou moins sévère, dans certains coins du monde, mais ce n'est pas forcément une question d'inégalité, tout simple. On peut avoir la pauvreté générale dans une situation plus ou moins égalitaire. C'était pendant longtemps la condition d'une grande partie du monde. Donc il faut faire des distinctions. Et je propose qu'on considère les inégalités économiques comme une question un peu différente. Au moins, son principe. Donc, encore une fois, je pose la question, quel est le problème? Je vais vous proposer qu'il y en a d'abord trois. Premièrement, que les inégalités économiques ont un des échelles de qualité dans la vie privée et dans la vie commune. Et ces échelles, ces différences, traduisent les inégalités qui sont d'origine économique en des inégalités sociales. Et qu'elles traduisent aussi les inégalités sociales en inégalités quasiment juridiques. C'est-à-dire, pousser trop loin, et même que les inégalités soient nécessaires en certains degrés, mais pousser trop loin, on risque de reproduire le système de classe qui existait autrefois. Et ça sort une question très grave, une possibilité très sévère. On peut tolérer les inégalités économiques autant qu'il reste possible et même probable que les individus s'en sortent de leur situation originale. Mais s'ils ne peuvent pas sortir, la situation devient forcément intolérable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il se peut que les inégalités enchaînent une perte de qualité dans la provision des assurances sociales et dans la provision des biens publics. C'est-à-dire que ces inégalités reproduisent la déprivation générale, mais dans le cadre d'une société opulente. La déprivation générale dans une société qui est pauvre, ce n'est pas une question d'inégalité forcément. Mais dans le cadre d'une société opulente, une déprivation générale devient intolérable. Et ça, c'est une question politique. C'est une question très connue aux économistes qui remontent même à Adam Smith, un économiste beaucoup plus progressiste que sa réputation actuelle. Mais Smith a écrit dans son grand livre sur la richesse des nations que la richesse, c'est le pouvoir. Il a ajouté d'une façon géniale, je crois, comme dit M. Hobbes, la richesse, c'est le pouvoir, comme dit M. Hobbes. Cette déprivation générale, alors, est complètement évitable, ce n'est pas du tout nécessaire, mais c'est une conséquence d'une tolération trop gentille des inégalités économiques qui mènent à une concentration du pouvoir politique dans les mains des riches, et qui peut dire autrement que c'est le cas absolu aux États-Unis en ce moment. Et depuis des décennies, que la politique, le pouvoir politique a été concentré dans les mains des riches. C'est très clair. C'est visible à tout le monde. Troisièmement, il y a une idée que j'appelle la prédation. Et par ça, je veux dire la subversion de la régulation, la subversion d'un système de gouvernement qui est essentielle pour le fonctionnement d'une société moderne. Une subversion menée par la richesse, par la finance, par le pétrole, par ceux qui contrôlent et qui monopolisent les médias. Adam Smith, encore une fois, connaissait bien ce problème. Il en écrivait parce que c'était un problème très, très répandu à son époque. Il connaissait bien la situation en Europe. C'est-à-dire, à cette époque, en Europe, c'était à l'autre côté de la Manche. On n'avait pas encore de tunnel. Et il écrivait, il y a une section dans son livre sur la richesse des nations, qui s'intitule « Sur les inégalités occasionnées par la politique de l'Europe ». C'est-à-dire par les monopoles qui ont été, sur un côté, qui a été créé par l'État, mais qui a été aussi une façon de contrôler l'État et la société. Mais sur la prédation, bien sûr, l'économiste qui en a fait le point, c'est le plus grand économiste dans l'histoire des États-Unis, Thorstein Erdmann, qui a développé cette métaphore des relations biologiques, des relations primitives, et qui a projeté cette métaphore sur la société économique. Il y a des mots et des phrases que je n'ose pas vous offrir en français. Conspicuous consumption. Conspicuous leisure. Conspicuous waste. Le gaspillage. Le gaspillage, c'était pour Veblen. Le marque essentiel de la distinction individuelle dans la société. La capacité de gaspiller les ressources, que tout le monde puisse le voir. C'était une façon non seulement d'avoir des inégalités, mais de les exposer pour que tout le monde puisse les voir. The leisure class et les higher barbarians. Ce sont des phrases délicieuses. Et je vous jure, quand je fais lire ce livre, La théorie de la classe des loisirs, à mes élèves, mes étudiants à l'Université de Texas, ils se reconnaissent parfaitement. C'est une révélation pour eux. Ils se reconnaissent dans leur société d'origine, dans leur famille, dans leur ménage et dans la société des étudiants actuels. Et même dans la société digitale de Facebook. C'est effectivement et précisément une manière d'exposer au monde les inégalités de popularité et de position. Alors, donc il y a ces trois aspects sociaux des inégalités dont il faut se méfier et contre qui il faut agir. Je vais vous offrir aussi, en plus, quelques considérations macroéconomique. Des considérations un peu plus pratiques, si vous voulez. Quel sens? Ces considérations, ces idées ont leur origine pour moi dans les recherches. Dans les recherches que j'ai faites à l'Université de Texas avec mes étudiants, mes doctorants, sur les conséquences et les liens entre les degrés des inégalités et les conditions économiques en général. Et je vais vous offrir trois de ces liens. Le premier, c'est avec le chômage. Si vous parlez au plus part des économistes, on vous dirait qu'il faut laisser augmenter les inégalités dans les salaires pour permettre à les employeurs, les entreprises, de choisir les meilleurs parmi les travailleurs et offrir le travail à tout le monde. Qu'il faut laisser baisser les salaires de ceux qui n'ont pas les talents, ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour chaque travail. Mais si vous considérez cette question sur le plan de l'expérience historique du monde, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on constate que les sociétés qui sont les plus égalitaires ont le moins de chômage. Systématiquement. Il faut se poser la question, pourquoi? Et la réponse, c'est assez facile. Dès que vous avez une grande inégalité des salaires, les gens quittent très facilement les mauvais emplois pour chercher des meilleurs. Et ce qui veut dire des inégalités salariales, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui soit très bien payé. Donc, il y aura plus de monde à chercher du travail, s'il y en a, il y aura le chômage. Tandis que dans les pays très égalitaires, ce problème est beaucoup moins sévère. C'est très simple, c'est même rationnel. Donc, les économistes pourraient le comprendre ce qu'ils voulaient. Deuxièmement, il y a apparemment une certaine relation entre l'égalité, entre les égalités et l'efficacité, la productivité d'une société. Ça se voit plus facilement parmi les petits pays. Considérons la Scandinavie. La Scandinavie, les pays scandinaves sont très riches. À part le Norvège, ils n'ont pas beaucoup de pétrole. Le Norvège, ça s'en fait. Qu'est-ce que ça? Mais prenons la Suède, par exemple, ou le Danemark. Ils sont aussi très égalitaires. Est-ce qu'ils sont devenus riches et plus égalitaires? Est-ce qu'ils sont devenus égalitaires et plus riches? C'est une question qu'on peut examiner du point de vue historique, mais c'est le Parti social-démocrate en Suède a pris le pouvoir en 1932. Alors, à ce moment-là, la Suède n'était pas un pays riche. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Avec un taux des syndicats, une proportion de la force ouvrière, membres des syndicats extrêmement élevés, avec une compression des salaires, donc un système égalitaire, surtout après la Deuxième Guerre, la Suède a encouragé les entreprises à haute productivité de s'installer en Suède et de devenir plus grande, d'augmenter leur opération, et ils ont réussi à exclure les entreprises de basse productivité, les entreprises qui sont plus réactionnaires par rapport aux autres dans les industries. Donc vous avez un pays qui est devenu de façon technologique, très avancée, très riche, par le moyen d'avoir été d'abord égalitaire. Donc il y a une relation directe, rationnelle, entre l'égalité et la productivité. Troisième considération macroéconomique. Il y a une relation entre l'inégalité, les inégalités économiques, et l'instabilité financière. Et ceci est aussi très direct, très facile. Dès que vous avez une économie qui dépend largement ou strictement sur les banques, sur l'extension des crédits des emprunts privés, vous aurez des cycles de plus en plus forts dans l'activité économique. Vous aurez les boules et vous aurez des crashs. C'est très clair. C'est très clair. Si vous me permettez encore une métaphore, je dirais que les chiffres sur les inégalités économiques que j'ai assemblées avec mes collègues ont un certain rapport avec la tension artérielle dans le corps humain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un certain niveau, un certain niveau de ces mesures qui marquent la bonne santé. Ils peuvent être trop bas. Inégalité zéro, c'est comme la tension artérielle zéro. On trouve ça au cimetière. Et nulle part ailleurs. On ne sait pas la façade. Mais ce qui est très important, c'est que quand ces chiffres montent, vous approchez à une crise. C'est peut-être même pas quelque chose qu'on puisse sentir de jour en jour. Mais c'est une indication qu'il y a des problèmes, qu'il faut se méfier. Vous pouvez avoir une crise sévère et on a eu cette crise. On a eu cette crise très profondément en 2007-2009. C'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi des chiffres, des bases de données que j'ai passé des années à accumuler, à étudier. Ah, je vais vous offrir quelques observations, je crois, pertinentes. D'abord, est-ce qu'il est vrai que sur le système capitaliste, comme dit M. le professeur Piketty, que l'augmentation des inégalités est permanente, inévitable, et ça va nous retourner au 19e siècle d'ici quelques décennies. Je crois que la réponse est très claire et la réponse est non. Selon les chiffres, si je les comprends bien, je crois que je les comprends très bien, l'augmentation des inégalités a été a concentré dans une période spécifique de notre histoire, c'est-à-dire surtout entre 1980 et 2000. Ça a commencé peut-être un peu avant aux États-Unis, mais il y a certainement certains pays, certaines situations, ça augmente encore. Mais pour la plupart, vous avez un sommet en 2000. Et après, c'est un peu comme ça, ça monte et ça tombe, selon la situation économique. Et depuis 2000, vous avez des histoires assez différentes dans le monde. Aux États-Unis, comme je disais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ça suit effectivement le marché des actions. Mais ce n'est pas très étrange, le marché des actions, c'est les salaires des riches. Oui. En Chine, nous avons des chiffres assez nouveaux maintenant qui nous indiquent que l'augmentation des inégalités qui a commencé au début des années 90 a atteint un sommet en 2004 peut-être, et après la crise qu'il y a une diminution des inégalités en Chine. Le niveau des inégalités reste très haut en Chine, aux États-Unis, mais la tendance n'est pas forcément toujours pour les augmenter. Et en Amérique du Sud, surtout au Brésil, en Argentine, je crois aussi en Équateur, et certainement je crois aussi dans les autres les petits pays où on n'a pas étudié d'une façon si profonde, il y a une diminution assez nette des inégalités depuis 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Quelle est donc la cause de la grande augmentation des inégalités, surtout entre la révolution Reagan, 1981, et l'an 2000? Mais c'est évident, mes amis. La cause de l'augmentation, la cause primaire de l'augmentation des inégalités entre la révolution Reagan et l'an 2000, c'est la révolution Reagan. Il ne faut pas chercher trop profondément dans cette situation. On a un changement de politique extrêmement important et profond. Réduction des impôts sur les riches, réduction des régulations sur la finance et sur les autres secteurs monopoles de l'économie, hausse des taux d'intérêt qui bénéficient les créditeurs et abîment les debteurs, et crise des dettes dans le monde entier. C'est très clair et ça se voit très facilement dans les chiffres. Et ensuite, vous avez l'écroulement des régimes communistes, peut-être une bonne chose sur certains points de vue, mais qui a augmenté les inégalités, qui a abîmé la société, la vie même d'une grande partie de la population, surtout de l'ancien URSS. Après la volatilité financière qui a accusé la vie pendant les années 1990. Changement de politique dans un pays clé du système financier mondial, conséquences sur le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire surtout si on se trouve, comme je crois, et ça c'est un autre livre qui vient de sortir, qui va sortir en français en janvier, qui s'appelle en français La Grande Crise. Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout si on se trouve dans un monde de petite croissance? On ne peut pas laisser à la croissance la solution de nos problèmes. Bon, soit. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de s'adresser à nos problèmes directement. Et de le faire comme on l'a fait pendant les années 30, pendant l'époque de Franklin Roosevelt et Mackenzie Turner. Premièrement, les assurances sociales qui durent encore dans nos deux pays, mais qui sont toujours en danger d'être abîmées, d'être réduites, d'être abolies. Mais les assurances sociales, ça devient de plus en plus important maintenant. Pas de moins important. C'est pas une chose qu'on ne peut pas se payer. C'est une chose, c'est un système qui devient de plus en plus nécessaire. Les assurances contre le chômage, les assurances contre, pour la santé, les assurances de la sécurité sociale pour la vieillesse. C'est ça. Aux États-Unis, l'assistance nourriture, très important. C'est ça qui nous abrite de la pauvreté générale. Et c'est ça qui maintient l'activité de nos économies et l'intégrité de nos sociétés, qui nous permet de prendre des risques dans la vie économique particulière. C'est d'abord très très important de comprendre que la tendance de l'austérité d'abîmer les systèmes des assurances sociales, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Exactement le contraire. Je peux répéter, mais vous avez entendu. Je crois. Deuxièmement, la régulation économique. On a passé toute une génération à se plaindre des coûts de la régulation. Et de se poser la question, comment réduire l'intervention de l'État dans l'économie? Mais je vous dis, c'est la mauvaise question. La régulation économique, c'est l'essentiel d'une société développée. C'est la différence entre une société développée et une société sous-développée. C'est pas la technologie, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'enseignement, c'est pas l'éducation. Vous les trouvez partout. Mais un système de régulation qui fonctionne, on le trouve seulement dans un pays développé. Des services publics, et des protections pour les consommateurs, des protections pour l'environnement, les biens communs, les standards pour les salaires minimums. Tout cela, c'est la société avancée, la société moderne. Ceux qui sont contre la société moderne. C'est très simple. Troisièmement, et je finis, équilibre de pouvoir dans notre société, c'est-à-dire des systèmes de gouvernement qui ne soient pas dominés par les finances et le pétrole et les monopoles. Essentiel. Je crois qu'il y a quelques-uns ici qui se souviennent quand nous avions ce que mon père appelait countervailing power. Les syndicats, les organisations des consommateurs, les organisations environnementales, les organisations anti-guerre, tout cela. Nous ne vivons plus dans ce genre de société, mais il faut rétablir. Et pour ça, il faut avoir un contrôle efficace des prédateurs. Ce qui suppose que les gouvernements ne soient pas dominés par les prédateurs, que nos États même, que les gouvernements, soient non-prédateurs. Si on peut faire ça, je crois qu'on pourrait encore rétablir le progrès contre les inégalités sociales qui vous a concerné tellement aujourd'hui. Et encore une fois, je vous félicite de vos efforts. Merci beaucoup.